France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Kateb Yassin est un des grands écrivains de la fin des années coloniales. Issu d'une famille cultivée, il est né à Constantine et à 16 ans, il participe aux manifestations anticolonialistes de mai 1945 qui furent réprimées de façon féroce et sanglante et qui lui valurent 2 mois de prison. Plutôt que d'aller au lycée, il lit Baudelaire et Lautréamont et publie ses premiers poèmes. En 1947, arrivé à Paris, il adhère au Parti communiste algérien, repart travailler comme journaliste à Alger et revient vivre à Paris. Il y rencontre Armand Gatti, mais aussi Bertolt Brecht, tout en confortant ses amitiés avec les grands poètes algériens dont il fait désormais partie. Kateb Yassin sut faire face aux grandes questions politiques de son temps et fut aussi reconnu immédiatement comme l'immense écrivain qu'il était. Auteur d'une œuvre de poète, de romancier et d'essayiste, ample et magnifique. Sa rencontre avec Jean-Marie Serrault date de 1954. La revue Esprit publia « Le cadavre encerclé » que Serrault mit en scène. Cette pièce, véritable cri du peuple algérien, fut à l'époque interdite en France. Ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. Ainsi, en 2003, pouvait-on lire dans le magazine littéraire « La parole brûlante du poète a traversé la salle Richelieu lors de l'hommage que lui ont rendu en janvier dernier pour l'ouverture de l'année de l'Algérie les comédiens du français dirigé par Marcel Bozonnet ». En 1967, Moussa Abadi invita les deux amis Serrault et Yassine dans l'émission « Images et visages » du théâtre d'aujourd'hui. Belle occasion de faire connaissance, mais surtout d'entendre la justesse de la vision de Kateb Yassin, qui craignait déjà à l'époque que la culture ne devienne un jour un pur objet de consommation.
Jean-Marie Serrault, il y a 4 ans, vous nous présentiez la première pièce, la première œuvre dramatique, le premier poème dramatique de Kateb Yassin, La femme sauvage. Vous aviez fait la connaissance de Kateb Yassin 7 ou 8 ans plus tôt, en 1954, et c'est vous qui l'avez révélé au public français. Alors je voudrais vous demander tout d'abord d'évoquer cette première rencontre avec l'auteur de La femme sauvage.
Eh bien, j'ai lu un jour, en 1954, la première partie du Cadavre encerclé, qui était publiée dans la revue Esprit. Et j'ai été tout à fait bouleversé par ce texte. Mon horizon à ce moment-là était limité à Brecht, Beckett et Ionesco, et d'un seul coup, Kateb m'a ouvert les portes d'un autre monde, les portes de l'Afrique, et je l'ai rencontré le lendemain matin. Il habitait rue de Rivoli, dans une mansarde qui donnait du côté du Palais Royal. Et aussitôt, je lui ai expliqué mon désir de monter la pièce. Et depuis, notre amitié n'a fait que croître, je crois.
Vous êtes donc mieux placé que quiconque et plus qualifié que quiconque pour nous parler de ce grand poète et pour nous dire où, selon vous, il se situe par rapport aux tendances du théâtre actuel.
Il se situe en dehors, et je crois que la grande force de Kateb, c'est de s'arracher, si l'on peut dire, à ce qu'on peut appeler la culture occidentale traditionnelle. La force de son théâtre, c'est qu'elle nous oblige, nous autres Français en particulier, Européens d'une manière plus large, elle nous oblige à être vus par les autres étant le tiers-monde. Je crois que jusqu'à maintenant, l'humanisme était synonyme d'homme occidental. Le terme humanisme, dans les esprits, en tout cas dans les, dans les cercles parisiens ou les cercles européens de théâtre moderne, était tout de même assez limité à une idée qui restreignait la notion d'urbanisme au seul et unique monde chrétien occidental. La force des auteurs comme Kateb, c'est brusquement de nous ouvrir d'autres visions de l'histoire, et ça n'est pas par hasard si ces nouvelles visions coïncident avec la décolonisation.
Mais qui est selon vous Kateb Yassine ?
C'est un auteur dramatique dont la situation historique et d'écrivain fait qu'il est obligé, qu'il est de par sa nature même amené à jeter sur notre histoire contemporaine un regard neuf et radicalement différent de celui que peut avoir un homme comme Ionesco, par exemple. C'est sa condition, c'est qu'il a cet irremplaçable génie de l'épreuve dont parlait Mounier, qui fait qu'à certains moments de l'histoire, le poète, ça c'est Kateb qui le dit, enfin le poète ou les enfants voient ce que personne d'autre ne peut voir, et il les voit le premier. Et je crois que dans le théâtre que nous jouons depuis 20 ans, il est certainement un de ceux qui ouvre d'un seul coup de nouvelles portes, à la fois sur la problématique du théâtre et sur l'histoire.
Vous venez de me dire que quand vous avez rencontré Kateb Yassine, vous étiez surtout à cette époque intéressé par le théâtre de Brecht. Vous serviez effectivement le théâtre de Brecht, celui de Beckett, celui de Ionesco, celui d'Adamov. Et ça a été pour vous tout de même une révélation.
Oui, certainement. Certainement, parce que tout en nous cherchons à retrouver ou à trouver l'équivalent moderne d'un théâtre plus élisabétain. Je pense que tous les gens de ma génération, je me sens un peu à cheval sur deux générations d'ailleurs, je crois que nous sommes à un moment où tout d'un coup on s'aperçoit que nos classiques ont vieilli, on s'aperçoit qu'il faut absolument arracher le théâtre à la culture avec un grand C. Et qui est mieux placé que des habitants de notre langue mais en dehors de l'Hexagone? Et Kateb me paraît exemplaire.
S'il fallait absolument le rapprocher de quelques poètes contemporains?
Ben, je n'en vois pas. Je pourrais arbitrairement, pour faire plaisir aux classificateurs patentés, le rapprocher de Césaire, bien qu'il en soit très différent. Mais pourquoi vouloir à tout prix rapprocher Kateb d'un autre?
Pour essayer de le situer.
Oui, je sais, c'est une habitude de la critique française en particulier, mais je crois que c'est un peu partout pareil, c'est que il faut toujours, quand quelque chose de neuf se présente et tout à fait vraiment authentique et neuf et nouveau, les esprits sont un peu perturbés, et pour ramener ça dans la classification dite universelle, qui finalement n'est qu'une espèce de dictionnaire, on cherche à tout prix à lui trouver et des parents spirituels et des affiliés. Alors, la critique, quand elle voit une pièce de Kateb, dit « Oui, mais enfin, c'est merveilleux, mais... »
Ça n'est pas Claudel.
Ça n'est pas tout à fait Claudel, ça n'est pas non plus tout à fait Rimbaud, ça n'est pas... Ben oui, heureusement.
C'est Kateb. Mais en quoi le théâtre de Kateb vous paraît un théâtre neuf?
Pour des quantités de raisons. Il me paraît neuf parce qu'il rompt radicalement avec tout ce que nous avons joué depuis 15 ans, aussi bien du côté de Brecht que du côté de Beckett, Ionesco et Genet, parce qu'il est issu profondément d'une situation nouvelle, différente, mais je voudrais pas m'embarquer dans de grandes dissertations là-dessus.
Kateb Yassine, avant de parler de votre théâtre, de votre poème dramatique, je voudrais vous demander de nous parler brièvement de ce que vous aviez fait avant d'écrire ce poème. Je voudrais, par exemple, si vous le voulez bien, évoquer avec vous vos premières années en Algérie. Où êtes-vous né?
Je suis né à Constantine.
En quelle année?
en 1929, je ne sais pas quel mois exactement, ça arrive fréquemment en Afrique du Nord. Ensuite, mon père était oukil, c'est-à-dire qu'il était une sorte d'avocat en justice musulmane, et il était appelé à souvent changer de résidence, de sorte que nous avons beaucoup déménagé pendant ma jeunesse. Mon père était aussi voyageur par tempérament, et j'ai tenu déjà de lui et de ma mère une espèce de pratique quotidienne de la poésie qu'on retrouve dans toute notre tribu. Il y a des tribus comme ça en Algérie. D'ailleurs, c'est curieux, par exemple, Amrouche, la famille Amrouche, vous connaissez certainement Taos, c'est pareil, son frère, sa mère, elle-même. Il y a tout le monde vit dans la poésie, aime la poésie. Et alors, donc, il y avait un milieu favorable lorsque mon grand-père maternel, mes oncles, mes tantes.
De quelle
tout
tribu?
Tout le monde aimait ça.
De quelle
c'est
tribu?
La tribu êtes-vous c'est une tribu, on appelle ça.
De quelle tribu êtes-vous issu?
C'est ce qu'on appelle les Kibloutis. C'est une tribu, je crois, qui est partie du Maroc pour aller en Algérie. Naturellement, on pourrait dire des tas de choses là-dessus, mais je ne suis pas assez sûr des origines pour pouvoir avancer une histoire enfin, certaine. Mais ce qui est caractéristique de cette tribu, c'est précisément qu'elle a dans son sein une réserve, un filon poétique qui se retrouve presque chez tous ses membres, de façon naïve, de façon plus approfondie, de façon plus ou moins affirmée. Il y a cette espèce de travail linguistique, culturel, qui peut-être à un moment donné correspondait à la période des Talebs, de ce qu'on appelait les Talebs, qui peut-être sont venus après l'Ibn Hillel, ce sont des choses que je n'ose pas avancer. Mais ce qui est curieux, en tout cas, à première vue, peut-être pour un occidental, c'est d'imaginer qu'il y ait des milliers de gens, parce qu'une tribu n'est pas comme une famille, ça comprend des milliers de gens, et que ces milliers de gens aient en commun le don poétique.
Vous avez fait vos études, je crois, au lycée de Sétif.
Alors j'ai fait mes études, j'ai d'abord été à l'école coranique, très peu, et mon père était de double culture, il connaissait l'arabe et le français, et c'est lui qui, la mort dans l'âme, j'ai d'ailleurs raconté ça dans le Polygone étoilé, qui m'a dit il faut être réaliste, actuellement en Algérie la langue française est dominante, c'est la langue qui domine, si tu veux vraiment faire quelque chose, si tu ne veux pas être dans la fausse position où j'ai été moi-même, il faut d'abord commencer par dominer et apprendre cette langue dominante, le français. Pour ce qui est de l'arabe, il ne sera jamais trop tard pour y revenir, puisqu'il y avait lui, il y avait ma mère. Mais les choses ont tourné autrement, parce que dès que j'ai quitté l'école coranique et que je me suis mis à apprendre le français, j'ai été pris d'une espèce de passion de la langue et de la poésie, très jeune, à partir de, je ne sais pas, 8 ou 9 ans. J'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir une institutrice qui m'a poussé dans cette voie. Mon père lui-même n'était pas contre, c'était plutôt un complice puisqu'il versifiait à tout moment.
En quelle langue?
En arabe et en français. Pour lui, c'était les deux. Il préférait l'arabe. Mais enfin, il pouvait me comprendre lorsque je lui montrais un poème en français. Ma mère, enfin, personne n'était contre. Dès le début, ça a été pour moi une chose toute naturelle qui m'a poussé évidemment à aller un peu trop loin, parce que vous voyez ce que ça suppose quand on est un petit garçon. D'une part, on est avec sa bande, avec les camarades, on est avec la horde enfantine, et puis de l'autre côté, la poésie est une espèce de solitude. Et quand je suis devenu collégien, plus tard au collège de Sétif, c'était alors beaucoup plus dur, parce que là, les camarades se moquaient du poète qui s'enfermait ou qui écrivait des vers, enfin, qui n'était pas comme les autres. À ce moment-là, il y a eu pour moi une espèce de nuit, de solitude qui a commencé, jusqu'au moment où j'ai découvert les idées révolutionnaires, jusqu'au moment où, en classe, on a commencé à se passer les premiers journaux progressistes, révolutionnaires, nationalistes, communistes, etc. Et ça a été comme une flamme dans un baquet d'essence. Tout de suite, ça m'a pris. Et puis les événements se sont précipités, il y a eu les manifestations de 1945, je me trouvais dans la rue, j'ai été pris, emprisonné. Ma famille, il se trouve que j'étais à Sétif, ma famille était à Guelma. Alors tout le monde a pris, ma mère beaucoup. Toute la famille a été profondément bouleversée par ça. Du point de vue personnel, j'ai basculé vers la politique, si vous voulez, pour parler. J'ai basculé vers ce qui était pour moi la révolution, mais encore très théorique. Et surtout livresque. Parce que je vivais dans un monde français, je lisais des livres français. Lorsque je pensais à la révolution, je ne sais pas, je pensais à Napoléon, au Kléber, mais je ne voyais pas le peuple algérien qui était devant moi tous les jours. C'est en prison que je l'ai vu.
Mais est-ce que vous êtes bilingue ?
Oui, je suis resté bilingue. Je crois que le secret pour écrire valablement en français, si on n'est pas français, c'est d'avoir gardé un contact avec sa langue. Je pense que les gens, la plupart des gens qui me posent cette question semblent penser qu'on puisse ignorer sa langue maternelle ou l'oublier. Ça peut devenir vrai. Il y a des moments d'oubli, parce que la langue est une question de pratique. Mais au fond, il y a toujours une source qui filtre. Et puis, pour moi, il y a eu la volonté. C'est mêlé aussi aux activités politiques. Par exemple, lorsque j'ai vécu à Paris, j'étais à Paris, mais tous les jours, je voyais des Algériens, et je parlais avec eux, j'écoutais de la musique algérienne. Chaque fois que j'avais de l'argent, j'allais manger un couscous. Au lieu de fuir les manœuvres et les alphabètes, j'allais vers eux.
Oui, mais ça, c'est l'aspect un peu sentimental de la question. Est-ce que vous ne pensez pas...
Ce n'est pas seulement sentimental. C'est la réserve même à laquelle on se nourrit. Sans cela, on reste livresque.
Oui, mais le fait est là. Ne pensez-vous pas, Kateb Yassine, que cette passion que vous avez eue très jeune pour la langue française,
oui,
et cette connaissance de la langue française, vous l'avez acquise au détriment de votre connaissance de la langue maternelle, dans une certaine mesure?
Ah oui, il y a eu un choc. Et il y a eu nécessité d'une espèce de choix, qui était un faux choix. Bien sûr, dans la mesure, par exemple, où pendant des années, on écrit le français, on se nourrit de poésie française, etc., ça se fait un peu au détriment de la langue arabe classique. Mais je pense que c'est un grave problème qui doit se poser à l'ensemble de la culture arabe. Ce n'est pas la faute des écoliers algériens qui se sont plongés dans la langue française, c'est la faute de tous ceux qui ont la responsabilité du développement de la langue arabe et qui n'ont pas fait la révolution linguistique dont l'arabe a besoin. Ce qui fait que jusqu'à l'heure actuelle, j'ai mes deux sœurs dans l'enseignement, on voit comment est enseigné l'arabe et comment est enseigné le français, on fait tout pour dégoûter les gens de l'arabe. Parce que quand ils étudient le français, ils voient que c'est vivant, ils voient que c'est une langue qui a traversé des révolutions, qui a eu des encyclopédistes, qui a eu des Rimbaud.
Qui a évolué.
Qui a vraiment évolué, puis qui a été brusqué, violé, qu'on n'a pas aménagé, qu'on n'a pas voulu enfermer dans un cocon. Et ils voient une autre langue qu'on traite comme une chose sacrée, la langue du Coran, et sur laquelle on accumule des paresses, des tours de passe-passe désuets, vieillots, des exercices verbaux, mais à laquelle on n'ose pas toucher.
C'est comme si on continuait à enseigner le français du XVIe siècle dans les classes.
Et voilà. Et encore, vous voyez, par exemple, le vieux français, quand il est sorti du latin, c'est un peu ce qui se passe chez nous pour la langue arabe populaire. On voit des embryons de ce que ça pourrait devenir. Mais chez nous, il faut tenir compte de l'islam, de la religion qui est exclusive, qui a tendance à tout attirer à elle, et qui est une force du passé, qui est devenue une force du passé.
Avant de publier vos premiers poèmes en français, est-ce que vous aviez écrit des poèmes en arabe ?
Non, je me suis exercé parfois à improviser. Vous savez qu'il est très facile d'improviser dans une langue comme l'arabe, l'arabe populaire par exemple, l'arabe en général, parce que c'est une langue d'une très grande richesse verbale, où les rimes, je ne sais pas, pour vous raconter une petite anecdote, on avait découvert un petit bistrot ici à Paris avec un de mes copains guitaristes qui était pratiquement analphabète, qui parlait à peine le français. Et c'était l'homme qui possédait ce bistrot devait avoir un faible pour la poésie parce qu'un jour, nous étions un peu ivres, nous nous sommes mis à improviser pendant des heures sur n'importe quoi, simplement comme ça, dans l'ivresse.
En arabe.
En arabe. Et à ce moment-là, le bistrot était tenu par un français, c'était ici à Paris. Eh bien, chaque fois, nos verres se remplissaient et le patron nous offrait à boire, tellement ça lui semblait marrant et incroyable. Mais c'était comme ça. Et en Algérie, si on veut, enfin, même si. Dès qu'on déclenche quelque chose dans la mentalité ou dans la langue, il y a une espèce de prodigieuse richesse qui se met en mouvement, de sorte qu'il m'est arrivé, par exemple, de faire des chansons que j'ai oubliées ensuite. Ça n'a jamais été l'essentiel de mon activité, mais ça n'est pas impossible.
Quand avez-vous publié vos premiers poèmes en français, soliloques ?
En 1946.
En 1945.
Juste en sortant de prison. Là aussi, j'ai été servi par une espèce de hasard. J'ai trouvé un éditeur, un imprimeur qui était en faillite.
En Algérie.
En Algérie. C'était un Breton qui était sur le point de fermer, enfin... Et ce faisant, il a voulu faire quelque chose avant de fermer boutique. Comme on s'est rencontrés, on s'est sympathisés. Il m'a donc publié cette plaquette de poèmes. Alors évidemment, c'était très important parce que ça m'a montré, ça m'a fait toucher du doigt. D'abord, toutes les vanités du jeune poète, tout ce qu'on voit trop en rose, si on veut. Je me suis rendu compte qu'on ne m'exposerait pas si facilement dans les librairies françaises. Je me suis rendu compte que les pseudo-intellectuels, et même les universitaires, et les gens, les parvenus de la culture, seraient les derniers à m'aider. Par contre, j'ai trouvé des gargotiers qui savaient à peine lire, mais qui ont acheté la brochure, ce qui m'a aidé à tenir le coup.
Et que chantiez-vous dans ces poèmes ?
Eh bien, c'était... Là, j'étais un peu... J'étais pris entre l'amour et la révolution. Je venais de tomber amoureux de Najma, et j'étais encore tout chaud de la révolution, alors le livre était partagé en deux.
Parce que Najma a existé ?
Oui. C'est une femme qui a bel et bien existé.
Et le poème Nejma que vous avez écrit par la suite...
Il est sorti de cette période. Tout est sorti de là, au fond. De la prison et de l'amour. Ça a fait une espèce de conflit, évidemment. Parce que...
Donc les deux chocs de votre adolescence, c'est-à-dire la prison et la rencontre avec Nejma,
oui.
Sont des moments très importants dans votre vie.
Je crois que c'est vraiment les deux sources où il faut voir, il faut essayer de trouver, si on veut voir d'où vient l'œuvre, je crois que à coup sûr c'est ça.
Eh bien, l'œuvre est là. Depuis les soliloques, vous avez publié un poème Nejma, vous avez publié un roman également, toujours intitulé Nejma, et vous avez publié un poème dramatique, un très beau, un très grand poème dramatique, paru aux éditions du Seuil, sous le titre « Le cercle des représailles ». De ce poème, Jean-Marie Serrault a tiré en 1960 une première pièce qui a été jouée d'abord sous le titre « Le cadavre encerclé ». 2 ans après, il l'a représentée sous un autre titre, cette fois-ci c'était « La femme sauvage ». La femme sauvage était composée du cadavre encerclé, mais précédée d'un autre poème, Koblout, et suivi d'un épilogue. Que raconte d'abord la femme sauvage ?
Alors voilà, je crois qu'il y a deux choses. Il y a le théâtre tel que je l'ai écrit, et le théâtre tel qu'il a été joué. Je l'ai écrit dans des conditions néfastes. Je n'ai pratiquement jamais eu des conditions normales pour écrire. C'est-à-dire, je n'ai jamais pu m'isoler avec une bibliothèque, un monde clos autour, personne qui vous ennuie. J'ai souvent été contraint à des avortements tragiques, d'une chose que j'étais tout près de finir, parce qu'il fallait sortir pour trouver de l'argent ou pour résoudre un autre problème. Alors, il faut dire que la façon d'écrire même le cercle des représailles, cette façon de reprendre les choses, cette fragmentation de l'œuvre, et qui parfois éclate en poussière même, tient aux conditions dans lesquelles je l'ai créé. Et le miracle de ces deux, enfin, ce que je dois à Serrault, c'est justement de m'avoir recollé morceau par morceau, si on veut, de m'avoir aidé à réaliser par étapes ce que je ne pouvais pas réaliser, ni même concevoir dans son ensemble. Jusqu'à présent, nous avons été vraiment... contraint d'accoucher vraiment dans la gueule du loup et dans des conditions d'agitation, d'incertitude graves, mais en même temps très fécondes et propices à la création. Il faut dire que quand j'ai écrit le théâtre, je ne pensais pas du tout à le jouer. J'avais, bien sûr, le désir que ça se joue au fond de moi, etc., mais je ne pensais pas du tout au problème que ça posait. Je n'étais jamais monté sur les planches, je ne savais pas du tout comment fonctionnait un théâtre. J'étais même inculte sur le plan de la culture théâtrale. Je n'avais pas lu Eschyle. J'avais à peine lu de Shakespeare, je ne sais pas, quelques livres.
Mais vous connaissiez les classiques français quand même.
Non, je ne les aime pas beaucoup. J'ai toujours détesté Racine. C'est des choses comme ça. Je préfère me nourrir dans la, Je préfère me nourrir dans la réalité ou alors dans des choses que j'aime exclusivement, dans lesquelles pour lesquelles je n'ai aucune réticence. Par exemple, pour ce qui est du théâtre poétique, quand je lis Shakespeare ou quand je lis Schiller, évidemment, ça m'apporte quelque chose. Mais j'ai lu tellement d'autres choses qui sont des trahisons de la tragédie que ça m'a très longtemps détourné même de la culture du fait de lire les œuvres des autres.
Donc il y a le théâtre que vous avez écrit, c'est-à-dire le poème que vous avez écrit et qui est apparu donc sous le titre Le cercle des représailles, et puis il y a celui que Jean-Marie Serrault a joué.
Oui, et ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont Serrault le met en scène, dont il le fait incarner. On le voit aujourd'hui, parce que ça s'enrichit. Les difficultés même que nous rencontrons, les contradictions dans lesquelles nous sommes plongés à chaque moment, nous oblige à tirer le meilleur de nous-mêmes et font que maintenant, nous sommes arrivés à réunir une troupe qui n'est pas seulement une troupe d'acteurs, mais de militants du théâtre, qui ont une idée du théâtre, qui ne sont pas des théoriciens, qui ne veulent pas créer un système du théâtre, mais qui se situent vraiment dans un courant révolutionnaire. C'est ainsi que, ce n'est pas par hasard que dans la dernière période, et à partir du moment où justement nous nous sommes rencontrés, Serrault s'est attaqué à Césaire. Actuellement, il s'attaque encore à bien d'autres choses sur le plan africain. Il a fait une recherche patiente des acteurs, finalement, il a débordé sur les Antilles. Ce n'est pas fini, c'est un long chemin. Et je crois que, finalement, tout ce qui reste de cette longue tragédie entre les deux peuples, c'est la rencontre entre ces deux Don Quichotte ou ces deux Sancho Panza que nous sommes.
Oui, mais... Commençons, si vous voulez bien, par la femme sauvage.
Oui.
Telle qu'elle a été jouée.
Oui.
Que raconte-t-elle?
Eh bien, la femme sauvage, c'est... Pour être encore moins théorique, en principe, le cadavre encerclé, la femme sauvage et les ancêtres, c'est la même chose. Tout à l'heure, dans une conversation que nous avons eue avant de commencer à discuter devant le micro, vous avez dit vous-même, vous avez vu vous-même que c'est qu'il s'agit au fond
du même poème.
Du même poème. Nous n'avons jamais pu le faire en entier, et nous voulons le faire en entier. Et nous le ferons, je crois, rapidement, puisque maintenant, grâce précisément à ce travail patient, maintenant, je crois que mon œuvre va pouvoir être jouée en Algérie.
Que contient ce poème, Kateb Yassine?
Alors, il contient ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez lire dans le cercle de représailles, c'est-à-dire le cadavre encerclé. Pour ce qui est de la femme sauvage, dans la version femme sauvage que nous avons donnée au Récamier, il a été précédé d'une partie qu'on retrouve dans les ancêtres actuellement aujourd'hui.
J'ai mal posé ma question. En vous demandant ce que contient ce poème, je voulais obtenir de vous une analyse, une petite analyse de ce poème.
Oui.
C'est-à-dire quel en est le sujet, par exemple.
Le sujet de la femme sauvage?
Oui. De ce poème,
ce
de l'ensemble.
Ce que j'écris n'a jamais de sujet. Je n'ai fait jamais de plan. C'est ça qui est très important.
Oui, mais il y a un thème là-dedans, il y a quelque chose, mais il y a
thème,
des personnages.
Après, il se dégage. C'est-à-dire, actuellement, si vous voulez, il se dégage. Lorsqu'on fait une chose, lorsqu'on la recommence, lorsqu'on l'approfondit, ensuite émergent des thèmes. Mais on ne peut pas dire qu'on les a voulus. Il y a certainement des gens qui écrivent comme ça. Mais moi, je ne peux pas écrire comme ça, probablement parce que j'ai trop de choses à dire. Je représente un monde qui s'est tu pendant longtemps, qui bouillonne, et avec lequel on ne peut pas planter un tube dans un volcan. On ne peut pas... vous voyez. Alors pour moi, le plus dur, c'est quand je me mets à ma table de travail, c'est de commencer à raturer, si vous voulez, de me ramoner comme une cheminée, de faire sortir un tas de gravats, etc., jusqu'au moment où j'obtiens une espèce de coulée vraie, où il n'y a plus à se tromper, où je sens que c'est vrai, et ça coule jusqu'au moment où ça s'arrête. C'est seulement après que je peux voir ce qu'il y a dedans. Mais je ne le vois jamais jusqu'au bout. Et probablement, je mourrai sans l'avoir vu.
Mais que voyez-vous maintenant?
Pour moi, vous voyez, par exemple, aussi bête que ce soit, Nejma, c'est une femme, mais ce n'est pas tout à fait une femme. Mais ce n'est pas seulement une femme. C'est aussi l'Algérie. Et c'est bête à dire comme ça. C'est seulement dans une œuvre, dans tous les détours de l'œuvre, à chaque moment de ce qui est dit, de ce qui est vécu, c'est seulement dans la façon de l'exprimer que ça apparaît. Alors, si vous voulez, au fond, c'est une quête de l'Algérie, oui, mais le dire comme ça, ça paraît gratuit.
Mais voyons, on peut l'analyser très facilement. Par exemple, on peut prendre la femme sauvage en disant qu'elle commence par une première partie qui s'appelle Kebloute. Qui est Kebloute?
Kebloute, c'est mon ancêtre, très précisément. J'essaye, alors là, c'est une remontée aux origines. la première pièce, la première partie de la pièce, qui n'a pas été conçue d'ailleurs pour être jouée là, forcément. Peut-être que dans une autre version, on la jouera à un autre moment du processus. Mais ce morceau est une espèce de retour aux origines. C'est une recherche des ancêtres à partir, disons, de la conquête française, c'est-à-dire de 1830. J'essaye de retrouver l'histoire de la tribu à travers d'abord Kebloot, ses enfants et sa femme. Et j'essaye, et je trouve là la racine, l'embryon tragique de ce qui vient dans le cadavre encerclé.
Et Kebloot meurt désespéré, non ?
Kebloot meurt révolté par l'asservissement qu'il voit se dessiner, par la tragique faiblesse de la société qu'il représente, par la profonde décadence dans laquelle était entré le Maghreb à ce moment-là. C'est exprimé d'une façon poétique, il y a seulement quelques traits d'histoire. Mais je montre aussi dans cette pièce la féodalité, Kebloot a été... C'est une histoire vraie. C'est vraiment l'histoire de ma tribu que je reprends dans le Jema sous la forme romanesque. C'est la trahison de la tribu, d'une part par la féodalité, les caïds, etc., les muftis, tout ce qui était censé être la base d'une société, mais qui en fait n'est que pourrissement. Et d'autre part, la force brutale, étrangère, d'un pays qui colonise et qui arrive en conquérant. Et tout cela, évidemment, met Kebloot dans une situation éminemment tragique, parce qu'il veut résister, il se sent authentique, il résiste, il jette des lueurs, il est prophétique, mais en même temps, il condamne, il est le premier à condamner le monde tribal ancien, duquel il est le champion en quelque sorte. Tous les yeux se tournent vers lui, mais il est placé dans une espèce d'impuissance, et il devient à ce moment-là prophétique. Il profère d'une part...
Des malédictions.
Les malédictions qui vont se réaliser, la tribu va être décimée, elle va perdre tout, elle va perdre non seulement les terres, mais même l'honneur.
Mais il annonce aussi que l'un de ses fils... L'Akhdar.
Et il annonce, alors il annonce, il voit que malgré tout, que dans toute cette immense catastrophe, parce qu'il faut bien imaginer ce que c'est pour un peuple, comme abattardissement, comme dépréciation, comme multitude, comme tare quotidienne qui écrase un peuple, il faut voir ce que signifie 130 ans de colonisation. C'est le règne de la crapule, du mensonge, de la compromission, c'est vraiment les valeurs qui se souillent. C'est un monde absolument invivable. Et il voit autour de ça se profiler ce l'Akhdar. Là, je joue sur une symbolique arabe, ce qui vous montre, vous voyez, que ça revient, la langue maternelle revient. L'Akhdar, ça veut dire vert, c'est le bourgeon vert de cet arbre frappé par la foudre.
L'espérance.
Oui.
Le renouveau.
C'est ça, ce petit bourgeon vert sur un arbre calciné qui va donner un personnage, lui aussi marqué par la tragédie des ancêtres, mais qui, lui, cette fois, ouvre une issue. Il ne s'agit pas d'une issue optimiste, forcément, parce que cette issue suppose encore des luttes très dures, et suppose encore des doutes, des contradictions, et finalement, au point où nous en sommes, par exemple, dans les ancêtres redoublent de férocité, tout le monde meurt dans cette tragédie, tout le monde est frappé. Mais les ossements des ancêtres, justement, cette espèce d'apocalypse totale, cette destruction nécessaire, C'est ça le salut pour l'Algérie.
Si le grain ne meurt.
Oui, ça peut reprendre aussi, oui, vous voyez. Oui.
Et l'Akhdar meurt à son tour aussi.
Oui, l'Akhdar meurt, la femme sauvage aussi.
C'est la fatalité de la tragédie antique.
Oui, il y a, alors évidemment, il y a une grande... Il y a toujours la tentation de rattacher cela aux anciens. Naturellement, si on me rapproche de la tragédie antique, je suis plutôt flatté. Et je trouve que... Ce ne serait pas démérité que d'être dans cette ligne-là, puisque les Grecs, par exemple, ont tué un des plus beaux théâtres qui soit, dont on puisse rêver. Mais évidemment, lorsque j'ai écrit ça, je ne le savais pas. Ce qui montre qu'effectivement, si on touche quelque chose de vrai, alors on retrouve les ancêtres les plus grands, y compris Échille. Mais il faut passer par Kebloot, il faut creuser dans son petit secteur, il faut creuser très loin pour retrouver les grandes choses ensuite.
Que vous l'ayez voulu ou non, Kateb Yassine, il est bien évident qu'avec votre théâtre, vous nous replongez dans la source même de cette tragédie antique. Et la deuxième pièce que Jean-Marie Serrault et vous-même avez tirée du Cercle de Représailles et que l'on joue actuellement au TNP est intitulée « Les ancêtres redoublent de férocité ». Et là, on retrouve l'Akhdar, on retrouve Nejma, Et le vautour, que symbolise ce vautour? Nejma, nous le savons, vous l'avez dit, c'est un peu l'Algérie. Lakhdar, nous savons, c'est le fils de Kebloute, qui représente le renouveau, l'espérance, la continuation de la lutte. Mais ce vautour qui vient...
Eh bien, vous voyez, les approches symboliques pour le poète ne sont jamais très évidentes. D'abord, il y a ce qu'on écrit de façon consciente, puis il y a ce qui est dans l'inconscient, il y a des réminiscences, soit scolaires, soit même des réminiscences qui sont dans le sang, même, des vieux symboles qui parlent par la bouche des hommes sans même qu'ils sachent d'où ils viennent. Bien sûr, à première vue, le vautour a fait son intrusion dans mon œuvre, si vous voulez, en pleine guerre. Parce que je crois que c'est en 1958, à Milan, que j'ai écrit ce morceau qui s'appelle « Les ancêtres redoublent de férocité ». C'était vraiment les moments les plus durs de la guerre, et tout naturellement, l'oiseau de mort, on voit bien ce que ça veut dire, c'est vraiment... C'est l'oiseau de la guerre, l'oiseau de la mort, c'est l'oiseau qui se nourrit de charogne. Bon, ça, c'est le tout petit symbole qui ne s'est pas encore développé. Mais au fur et à mesure que je l'écrivais, il a fini par devenir humain, ce vautour. C'est-à-dire, si vous voulez, j'ai apprivoisé l'idée de mort, sans le vouloir. Ou plutôt, peut-être c'est elle qui m'a apprivoisé. En tout cas, la mort est devenue une espèce de vie. Le vautour est devenu l'oiseau des ancêtres, de ceux qui sont morts, mais plus vivants que les vivants, qui sont plus nombreux même que tout ce que... plus nombreux même que le plus nombreux des peuples, plus nombreux que les Chinois. Les morts sont les... Nous vivons dans l'empire des morts, encore à l'heure actuelle. Ils sont, et leur poids sur ce que nous, dans ce que nous vivons, c'est cette subtilité-là, ces fils très ténus qui nous tiennent à la terre et à tous les cadavres qui sont dedans. C'est un peu ça le thème de la tragédie.
Je ne sais pas, Kateb Yassin, si vous vous considérez vous-même comme un poète ou un auteur engagé, mais il y a bien évidemment un message dans ce poème dramatique que vous avez écrit. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de me dire quel est ce message.
Eh bien, vous voyez, c'est toujours le même problème qui se pose. Je crois qu'il faut une part d'obscurité... dans le fait même de porter un message. En quelque sorte, le vrai messager ignore lui-même ce qu'il y a dans son message. Il faut, dans une certaine mesure, qu'il l'ignore. Sinon, il serait tenté de jouer avec, ou de le transgresser, ou peut-être même de mal l'exprimer, se sentant trop sûr de ce qu'il a à dire, ou par exemple, il serait tenté de jouer au messager, ce qui serait tout à fait contraire à sa mission profonde. Le message que j'apporte, bien sûr, si on veut, c'est la poésie. C'est le fait que je trouve que la poésie est gravement menacée à notre époque. Elle n'est pas seulement menacée ici, en France ou dans les pays occidentaux, où elle est traitée en parents pauvres, où on édite de moins en moins les poètes et où on les lit de moins en moins aussi. Mais dans les pays qu'on appelle des pays du tiers-monde, si vous voulez, dans tous les pays qui ont subi une oppression à l'état national, dont les langues ont été étouffées, les cultures aussi, là, c'est encore plus grave. La poésie est en quelque sorte présente et absente. Elle est présente comme force, elle est latente dans le peuple. C'est-à-dire que très souvent, dans un marché, n'importe où, on trouve quelqu'un qui reprend la fonction du poète. Mais elle a perdu le très grand caractère qu'elle avait au départ. Et j'essaye de faire que le vieux duel entre le prophète et le poète reprenne, et que le prophète n'est pas le dernier mot. Je suis pour que le poète prenne la place du prophète. C'est-à-dire, je suis pour la liberté contre le système. Mais cette liberté, je ne la conçois pas pour moi seulement. Je ne la conçois pas comme une liberté dans un jardin et une tour d'ivoire. Je la conçois comme une liberté pour les autres. Donc, la nécessité de faire passer la poésie dans la révolution, c'est peut-être la seule chose qui peut vraiment la rendre humaine, ouvrir des fenêtres dans cette espèce de château fort, de donjon terrible qu'a tendance à devenir la révolution quand elle s'enferme sur elle-même, quand elle manque de confiance en elle-même, et quand elle est envahie par l'esprit prophétique ou systématique qui consiste à tracer une voie étroite aux esprits et aux gens et qui finalement dégénère en... On ne comprend compréhension dégénère en diverses trahisons du verbe, de la fonction libératrice du verbe.
Vous dites que le poète, et c'est très joli, vous dites que le poète est un perturbateur dans la perturbation, un révolutionnaire dans la révolution. J'aimerais bien vous demander de me définir le rôle du poète dans la cité, d'une façon générale.
Oui, il y a...
Vous avez semblé opposer il y a quelques instants le prophète au poète et le poète au prophète. Vous ne croyez pas que l'idéal serait d'avoir le poète prophète et le prophète poète? Est-ce qu'il n'y a pas dans tout prophète un poète et dans tout poète un prophète?
Ils se ressemblent, ce sont des frères ennemis. Dans l'histoire, ce sont des frères ennemis. Demain, peut-être, ils deviendront une seule et même personne. Mais nous sommes quand même devant un bilan tragique de prophéties qui ont débouché sur non seulement les destructions et la guerre, mais l'incompréhension générale entre peuples, et les guerres de religion, les séquelles du racisme, le bannissement de la culture, une espèce de matérialisme grossier ou d'idéalisme insincère. Tout cela, c'est quand même en partie l'échec des diverses prophéties religieuses qui se sont succédées. La poésie a été tuée au profit, elle a été sinon tuée, assourdie, enfin elle a été un peu muselée, souvent même freinée, par les poètes eux-mêmes, quand ils voulaient se rendre utiles à une société. Par exemple, nous avons eu les poètes courtisans. Vous devez savoir, enfin, tous ces milliers de poètes courtisans qui ont tué pratiquement une très belle poésie, la poésie arabe. Alors qu'autrefois, avant l'islam, les anti-islamiques étaient tous des géants de la poésie parce qu'ils ne se préoccupaient pas ni de plaire aux prophètes, ni de plaire aux sultans. Alors, malheureusement, les révolutions. La révolution tout court, c'est la révolution des étoiles, de la terre, de tout, de l'herbe qui pousse, c'est très simple. Mais organisée de façon humaine et politique, ça devient des responsables qui finalement deviennent des bureaucrates, ça devient des gens qui luttent contre l'arbitraire et qui ensuite deviennent eux-mêmes arbitraires. Des gens qui sortent de prison pour en mettre d'autres finalement en prison. Et toute cette terrible répétition de la tragédie humaine, la poésie doit s'y opposer. Et c'est là, justement, c'est plutôt la politique là, qui devient mise en question par le verbe. D'une certaine façon, le poète dit ce que le dirigeant politique ne peut pas ou ne veut pas dire. Il ne le dit pas, et le poète, lui, ne le dit pas pour être élu au comité central ou pour faire plaisir, au contraire, parce que très souvent, il est une espèce de Cassandre. Il est quelqu'un qui dit des choses qui touchent, mais qui forcément ne font pas plaisir ou semblent inutiles, ou semblent même frappées de stérilité.
Vous chantez donc, Kateb Yassine, la souffrance d'une nation, d'un peuple, l'espérance d'une nation, d'un peuple, dans ce cercle des représailles. Mais vous chantez dans une langue qui n'est pas du tout celle de ce peuple. Alors vous vous trouvez dans une situation assez, non pas ambiguë, mais assez, dans une mesure embarrassante, puisque chantant pour ce peuple, vous chantez dans une langue qui n'est pas la sienne. À qui s'adresse votre chant, en fin de compte?
Eh bien, vous voyez, justement, les hasards de l'histoire font que les impasses sont fécondes. Bien sûr, vu comme ça, avec la rigueur d'une question qu'on pose et à laquelle on répond tout de suite, oui, c'est vrai, la langue française n'est pas notre langue maternelle, le peuple algérien parle ou l'arabe ou ses dialectes kabyles. D'autre part, il y a l'analphabétisme, il y a des tas de choses qui font que, jusqu'à présent, en Algérie, je suis moins lu qu'en France. Mais je suis absolument sûr que c'est déjà en train de changer. Parce que ce qu'on oublie, c'est que la langue française est devenue une langue algérienne. Le français n'est plus une langue étrangère. En Algérie, elle fait partie maintenant du pays, des habitudes mentales, des façons. Les gens ont ça dans l'oreille. En plus, ça c'est dans le peuple. Mais pour ce qui est des jeunes générations, il y a actuellement dans les écoles, jusque dans les universités, des milliers et des milliers de lecteurs nouveaux pour moi, de spectateurs pour un théâtre en langue française. Et c'est précisément ce vers quoi nous débouchons. Jusqu'alors, il y avait les deux écueils, une espèce de cosmopolitisme qui aurait tendu à ce que le poète algérien veuille devenir un classique français, veuille se faire français, Il y a toujours eu cet écueil, il reste encore pour quelques écrivains qui ne se dégagent pas assez de cela, qui ne désapprennent pas ce qu'ils ont appris, qui ne veillent pas à garder leur originalité, même au prix d'un viol de la langue et même de certaines maladresses voulues, volontaires. Il faut de temps en temps rompre ce qu'on apprend. Et puis il y a l'autre écueil, l'écueil nationaliste, qui tendait à dire, en trop simplifiant les choses, bon, maintenant il faut que nous jouerons des choses françaises, mais ce sera des auteurs français que nous jouerons en français, pour le reste ça devra être fait en arabe. On s'est aperçu que c'est faux, c'est trop systématique. Actuellement en Algérie, il y a un théâtre de langue arabe populaire très vivant, qui a de l'avenir, mais il y a aussi un théâtre de langue française, dont celui que j'écris, qui est là, qui est aussi devenu urgent. Le public le réclame. Ils veulent, par exemple, les gens en Algérie, depuis déjà des années, disent « Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ici ?» Ce n'est pas gênant que ce soit en français. Il y a déjà beaucoup de gens pour comprendre ça en français, sans, en Algérie même, et sans que ça fasse problème. Ce problème est dépassé déjà. Il commence à l'être.
Ce qui est certain, en tout cas, c'est que votre chant a d'abord été entendu en France.
Oui, c'était nécessaire, parce que historiquement même c'était nécessaire, au cœur du conflit, puisque les deux peuples étaient en conflit, c'était absolument nécessaire de parler aux Français dans leur langue. De ce point de vue, le vrai rôle de révolutionnaire du poète, ça a été de toucher le peuple, que tout un système voulait nous opposer, dans sa langue. C'était ça. Si nous avons joué un rôle dans la révolution, nous écrivains, c'est vraiment là. Et je crois que ça a été beaucoup. Il fallait d'une part combattre la caricature du peuple qui était son armée et sa police, mais il fallait aussi en même temps toucher ce peuple au très fond de lui-même, dans sa langue, et lui retourner son message libérateur, parce que beaucoup de Français qui sont allés en Algérie croyaient sincèrement apporter les principes de la révolution là-bas. Il fallait les prendre à ce jeu et leur retourner leur propre mission civilisatrice et libératrice, leur retourner en France dans leur langue, incarné par un Algérien. Et à ce moment-là, c'est devenu très vrai. La contradiction a été assumée.
On a parlé à propos de votre théâtre, et Jean-Marie Serrault vient de l'évoquer tout à l'heure. On a parlé de Rimbaud, on a parlé de Claudel, on a naturellement parlé de la tragédie antique. Mais vous êtes mieux placé que les autres pour savoir si vous avez des affinités avec ces grands poètes, si vous vous sentez leur... quelques dettes, si vous avez quelques dettes vis-à-vis de...
Oui, j'ai des dettes vis-à-vis... Alors, par exemple, là, c'est pour encore mieux dire ce que je voulais dire tout à l'heure, à l'instant, cette chose, la langue, le fait d'utiliser la langue française, et aussi le fait que c'est un Français, c'est Jean-Marie Serrault, qui est venu, que l'histoire a mis sur le tapis, pour la réaliser, même, cette œuvre, pour la donner aux Algériens, c'est ce qu'il va faire. Et c'est finalement nous qui représentons ce que les peuples ont de plus authentique. C'est nous qui survivons à la guerre, ce n'est pas la guerre qui nous a détruits. Alors, c'est vous dire que je ne rejette pas, par nationalisme stupide, ce que je dois à la France ou à la culture française. Et encore plus à des hommes français, quand ils sont de véritables camarades de combat, comme Serrault, par exemple, comme les acteurs français qui sont dans la troupe. Et aussi, alors là, je ne peux pas oublier, par exemple... que j'ai écrit autrement à partir du moment où j'ai lu Baudelaire, Rimbaud, par exemple. Mais je suis un peu furieux quand on me compare à Claudel, parce que je ne me sens pas de ce côté-là. Il y a des moments où ça me rend un peu furieux quand on essaye de me classer, de me classifier.
De vous étiqueter.
Oui, parce que je pense que ce serait dangereux. Ça pourrait faire croire aux gens que j'ai voulu imiter une école ou que j'ai voulu me situer... Non, je crois que... On ne peut vraiment rien faire de sérieux sans apprendre, d'accord, sans recevoir d'influences diverses et profondes, d'accord, mais il faut désapprendre ce qu'on a appris. Et il est clair que si j'avais voulu imiter Rimbaud ou Baudelaire, enfin, que je porte au pinacle, si j'avais voulu les imiter, je n'y aurais pas réussi et j'aurais raté mon œuvre. Vous voyez, le grand danger, justement, c'est pourquoi je crains maintenant que... À partir du moment où on me mettra au programme scolaire, je crains de devenir, d'être fossilisé et vivant. Il va falloir mener une bataille pour empêcher, non pas pour essayer d'expliquer moi-même ce que je fais, mais au moins pour empêcher les fausses explications. C'est tout un travail et vous m'en donnez aujourd'hui l'occasion. C'est gentil.
Vous allez écrire, je crois, une œuvre qui aura pour titre « Les frères monuments », si je comprends. Tout le monde établit un rapprochement, si vous le permettez, entre les frères monuments et d'autres frères dont on parle beaucoup dans la presse depuis quelques années.
Oui, les frères musulmans.
Il s'agit d'un pamphlet, si j'ai bien compris.
Oui, c'est un pamphlet.
Contre quoi ?
Eh bien, vous voyez, c'est le danger de toutes les révolutions. On commence par être un homme vivant, un homme vrai, un militant, et puis peu après, on se statufie. On se fossilise. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'on comprend difficilement que quelqu'un qui a risqué sa vie, qui a été exemplaire de dévouement, etc., pendant un certain temps, et on le voit tout d'un coup devenir un bureaucrate hargneux qui rejette le peuple, qui le méprise, etc. Cette transformation des personnages, c'est vraiment le problème dans un pays comme le nôtre, en Algérie. Parce que nous avons connu, il n'y a pas si longtemps, une période merveilleuse où nous nous sentions tous frères, où il y avait une espèce de sourde sympathie à n'importe quel moment qui emportait tout un peuple. Et puis, quelques années après, un fossé terrible, le peuple d'un côté, et de l'autre côté, des dirigeants plus ou moins authentiques et plus ou moins sincères, mais dont beaucoup sont déjà devenus des frères monuments, c'est-à-dire des gens dont il faut prendre soin, auxquels il faut donner de l'argent, rendre les honneurs, mais qui ne sont plus vivants, qui sont déjà des statues, qui sont devenus des momifications de l'idéal révolutionnaire. Alors il y en a beaucoup, je voudrais les prendre dans la vie, j'en connais quelques-uns, je voudrais faire une satire de ça, un peu dans le style de ce qu'avait fait Maïkovski, par exemple,
après la révolution russe. Ça sera une pièce de théâtre.
J'espère que ce sera une pièce de théâtre.
Mais vous venez de me dire tout à l'heure que vous n'aviez aucune culture théâtrale, et ça sera ma dernière question, au moment où vous avez entrepris d'écrire le poème dramatique Le Cercle des Représailles.
Oui.
Est-ce que depuis, vous avez eu l'occasion, au contact de Jean-Marie Serrault d'abord, bien sûr, mais d'une manière plus large, d'acquérir quelques connaissances, de savoir ce qui se fait au théâtre?
Par exemple, maintenant, je sais qu'au théâtre, c'est-à-dire, je suis devenu beaucoup plus audacieux. Autrefois, j'ignorais par exemple le vautour. Quand j'étais privé, pour moi, alors ça dépasse même la culture, c'est l'expérience. C'est le fait d'être en contact avec des acteurs et un metteur en scène. Et j'ai vu, pas n'importe quel metteur en scène, parce qu'il faut avoir, encore faut-il avoir les idées qu'il faut. Le vautour, par exemple, je le voyais comme une image, moi je le voyais sur un écran. Grâce à Serrault, ce vautour est devenu un être vivant, un acteur. C'est beaucoup plus beau comme ça, et probablement la pièce aurait été ratée si on n'avait pas trouvé cette idée toute simple.
Mais le fait d'écrire pour le théâtre, je m'excuse de vous interrompre, le fait d'écrire pour le théâtre ne vous incite-t-il pas à vous intéresser à ce qui se fait autour de vous, à ce que font les autres? Je parle naturellement du nouveau théâtre. Est-ce que vous ne vivez pas un peu au contact de Jean-Marie Serrault, un peu en vase clos?
Non, j'ai un côté, si vous voulez, assez barbare. Je rejette en partie la culture. J'ai toujours détesté, si vous voulez, l'esprit universitaire. Les gens cultivés me semblent stériles et me semblent frappés d'impuissance parce que, au lieu de chercher en eux-mêmes la matière de leurs œuvres, ils croient l'acquérir dans des lectures ou dans des connaissances. À mon avis, il faut plutôt créer et tout en créant, essayer de lire, et à ce moment-là, de temps à autre, on peut voir qu'on a des frères, des compagnons de route, ou des ancêtres, vous voyez, mais je ne peux pas, vous verrez dans le roman, c'est pareil, dans le Polygone étoilé, j'ai fait exprès de détruire toute idée d'organisation romanesque. Je sens que c'est ça qu'il faut faire, c'est un travail destructeur.
Mais comment pouvez-vous rejeter ce que vous ne connaissez pas? Comment pouvez-vous rejeter une forme de théâtre?
Je rejette a priori. Je rejette le mode de création dit cultivé.
Avez-vous
je rejette l'écrivain entouré de livres, si vous voulez, et qui se nourrit de livres, qui ensuite recrache ces livres-là pour en faire un autre.
Vous êtes-il
je pense qu'il vaut mieux, la vie, tout court, il vaut mieux lire le moins de livres possible, à condition qu'ils soient bons, bien sûr.
Oui, mais quand il s'agit de théâtre, il s'agit de voir. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des compagnons de route au cours de ces dernières années?
Les seuls, ça a été soit la troupe de Serrault,
mais je parle d'auteurs dramatiques.
Ah, d'auteurs dramatiques. Non, ça s'est arrêté. ceux qui écrivent tout à fait actuellement.
Et que Serrault a découvert ou servi depuis 20
ans. Je vois Césaire.
Césaire, c'est tout récent.
Je vois Césaire, surtout.
Alors, Beckett, le théâtre de Beckett.
Je n'ai jamais vu une pièce représentée. J'aime ce qu'il écrit. J'aime sa tournure d'esprit.
Ionesco.
De Ionesco, il y a des choses que j'aime aussi. Mais je m'en sens... vous voyez, c'est une chose... C'est un grave dilemme que d'être obligé à la fois de vivre, d'écrire et de se cultiver. On ne peut pas faire les trois, et surtout si on veut en plus faire œuvre de révolutionnaire et en plus rester libre dans la vie, libre toujours, libre de tout voir, et si on veut pousser les choses jusqu'au bout. Alors évidemment, il faut choisir. Il faut choisir par exemple entre aller au théâtre tous les soirs, ou aller dans la rue et voir les gens, ou alors s'enfermer et écrire. Je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivé. Il faut que je garde une espèce de barbarie. Il faut que je reste barbare. Ça a l'air facile, mais c'est très très difficile. Parce que... il y a toujours, surtout dans une ville comme Paris, la tentation du cosmopolitisme. La tentation de vouloir acquérir des notions de culture qui, en fait, ne sont pas essentielles. Qui sont des choses qu'on peut avoir connu, mais pour celui qui veut créer vraiment ou celui qui veut abattre, ça peut le gêner. Or, moi, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à abattre. Je sentais que pour moi, si j'avais voulu... Par exemple, la culture française aurait pu être un mortel danger pour moi si je m'étais complu. Si je n'avais pas choisi, par exemple, au départ, si je n'avais pas choisi Rimbaud et si je ne m'en étais pas tenu là, si j'avais voulu assumer toute la culture française, si j'avais voulu une espèce de fringale de la culture, je serais devenu ce que je reproche d'être à beaucoup d'écrivains, c'est-à-dire une espèce de monstre qui a une espèce de glouton qui a dévoré des tas de plats étrangers, qui ensuite en fait un, pour dire voilà, je connais la cuisine universelle. Mais en fait, ce n'est pas ça un poète. C'est quand même très difficile. Parfois, il faut toute une vie, il faut aussi beaucoup de solitude. Et puis, il faut chercher ce que je n'ai pas encore trouvé, moi, c'est la vie profonde du pays, en Algérie. Et en Algérie, les plus cultivés, c'est les analphabètes. Ceux qui m'en apprennent le plus, ceux avec lesquels j'ai du plaisir à être, c'est ceux-là. C'est des chômeurs, par exemple, des chômeurs parfaits, qui n'ont jamais été à l'école. C'est les plus riches. Dès qu'ils se mettent à parler, et là, c'est tout un travail, parce qu'il y a un côté presque policier dans le poète. Il faut les faire parler. Il faut trouver les moyens de les toucher dans leur fibre. Et alors là, on s'aperçoit qu'il y a toute une humanité extrêmement riche, une espèce de cours de miracle, si vous voulez, pour parler comme Victor Hugo, si vous voulez, une espèce d'immense richesse enterrée dans l'ignorance d'elle-même, mais aussi dans le fait que, en général, les écrivains et les hommes de culture ne voient jamais ça, ne vont jamais là. Par exemple, nous avons vraiment de très grands poètes qui sont des analphabètes, qui n'ont jamais su ni lire ni écrire, donc qui ne connaissent ni Shakespeare, ni Eschyle, ni rien. Et parfois, c'est mieux. Parce que très souvent, ce que nous appelons les lettrés, chez nous, les gens que vous verrez, professeurs d'université, etc., ils sont d'un horrible mauvais goût et d'une impuissance, enfin, criante, dès qu'il s'agit de vraie poésie. Rien n'est jamais sorti de là, rien n'est jamais sorti de fort, du moins dans ces pays-là. Alors, il faut d'abord, je crois... essayer de voir ce qu'on peut apprendre parmi les gens qui ne se piquent pas de culture. Parce que j'ai peur que la culture ne devienne comme une voiture ou comme un frigidaire, une chose qu'on veut s'approprier, et qu'on veut accumuler en quantité, et dont on veut montrer des échantillons brillants. On dit « j'ai vu tel pièce, je l'ai lu ». Ah oui, mais très souvent on ne l'a pas lu, on ne l'a pas vu, on l'a mal lu. Et il y a quand même la chose, il y a la méditation, il y a le travail... qu'on ne peut faire que soi-même, qu'on ne peut pas trouver dans un livre, ou dans une pièce, si on veut en créer une autre. Il y a un grand danger, là, vous voyez. On ne peut pas, bien sûr, c'est une position qui ne tiendrait pas si elle était absolue. Puisque, malgré tout, je lis des livres et je vois des pièces de théâtre. Et je suis heureux de connaître Schiele, c'est sûr. Seulement, il faut toujours se méfier un peu de cette culture-là, avec un grand C, vous voyez ce que je veux dire.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 février 1967. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter à volonté sur le site franceculture.fr.